pratiques, les projets nous remontent, nous constituons des groupes de lecture. Et cette année, dans les groupes de lecture, il y avait Sophie Bécherel. Sophie Bécherel, je pense que tout le monde la connaît, elle est journaliste scientifique à France Inter. Et donc, elle a lu les projets qui traitaient des territoires innovants. Et puis, son retour, elle dit, mais c'est extrêmement intéressant, mais son premier mouvement, c'était de dire, mais un territoire innovant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc, c'était une anecdote. Alors, pour dire quoi? Pour dire qu'effectivement, c'est un concept qui est quand même, somme toute, nouveau. Alors, si on en fait la généalogie, il a allé une petite vingtaine d'années, c'est le bel âge, à peu près, hein. Sauf erreur. Et alors, sur quoi repose-t-il? Ben, il repose sur l'idée que les sociologues nous ont transmise, hein. Je pensais à Latour, mais je pensais aussi à Anne Barrère, selon l'idée selon laquelle un enfant, un élève, apprend certes à l'école, mais il apprend en dehors de l'école. Et finalement, il apprend sur un territoire où fonctionnent des associations, où fonctionnent des clubs, et il va constituer son savoir de tous ces apports-là, donc des apports qui ne vont pas être scolaires, et on parle généralement d'école informelle. Et puis, à partir de cette idée-là, on en a aussi une autre, qui est que nous entrons désormais dans la période de la formation tout au long de la vie, et que finalement, on ne peut pas faire comme si, désormais, sur un territoire, seule l'école était aux prises avec la transmission, seule l'école était concernée par la transmission. C'est là qu'intervient l'idée donc, du territoire apprenant dont nous allons parler aujourd'hui, sachant que, comme je l'ai dit et comme en témoigne la réaction de Sophie, eh bien, c'est encore une notion qu'il faut clarifier, qui n'est pas encore totalement stabilisée, qui s'enrichit encore beaucoup, et puis qu'il faut aussi la développer pour qu'elle libère finalement tout son potentiel et toute sa capacité à faire bouger les lignes. Alors, c'est dans cette exploration de ce territoire si particulier que vous allez, que votre trio va nous entraîner aujourd'hui. Frédérique Alexandre Bailly, vous êtes rectrice de Dijon, vous êtes docteur en sciences de gestion, vous avez consacré vos recherches au management, à l'établissement et à l'autonomie au travail. Pascal Hague, vous êtes maître de conférence à l'EHESS, titulaire de doctorat d'études intérieures et de psychologie, et vous êtes à l'initiative du Lab School Network, hein, qui est désormais très connu. Miguel Toquet, vous êtes certes un voisin de palier, mais vous êtes en outre un des membres coordonnateurs de ce même Lab School Network, expert à plusieurs titres sur les questions d'innovation à l'école. Je rappelle que vous étiez membre du CNIRE, hein, qui se réunissait jusqu'à il y a 2 ans. Et vous êtes concepteur de dispositif Espace Création et vous participez également au dispositif Villani Torossian pour l'essor des labos de mathématiques. Je vous laisse la parole. Merci.
Bien, merci. Merci beaucoup Isabelle. Bonjour à tous. Vous allez voir qu'on est un trio qui, peut-être que vous ne verrez pas, mais nous on sait, qui ne sait pas où il va, puisque ça fait partie du principe de départ sur ce que c'est qu'un territoire ou un collectif apprenant, c'est qu'on apprend à chaque instant et qu'on essaye surtout de ne pas répéter ce qu'on a fait avant, mais de partir de là où on en est. L'essai qu'on va faire devant vous vient en fait d'un séminaire de l'EHESS qui est copiloté par Pascal et Miguel et dans lequel j'ai eu le bonheur d'être invité pour la première séance cette année. Je n'ai pas assisté aux séances d'après, donc je sais qu'ils ont un temps d'avance et que donc ils ont avancé. Et on va commencer par parler à trois voix et puis après j'espère qu'on aura un échange pour ressortir de là en ayant encore appris autre chose. On a centré plus que sur territoire innovant, on a centré sur la notion d'institution apprenante, on va dire, puisque je vais commencer par parler de l'académie apprenante, et puis on va parler aussi des établissements apprenants et des circonscriptions apprenantes. Peut-être que dans la salle, on a aussi parmi nous des membres de ces circonscriptions apprenantes, et il commence à se passer des choses un peu partout. Et c'est intéressant de saisir toutes les occasions de réfléchir ensemble à ce que ça signifie, parce qu'effectivement, tout ça n'est pas très clair. Donc on va essayer d'éclaircir les choses. Je vais commencer par l'académie apprenante et par vous donner un exemple de définition, parce que la définition évolue en permanence. C'est la définition que j'avais donnée pour le séminaire. qui est une définition en cours de route, je dirais. L'Académie apprenante à Dijon, c'est le résultat d'une démarche participative qui a duré une année et qui a consisté à réfléchir à ce qu'on voulait se donner comme stratégie en demandant à l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire en demandant aux élèves, en demandant aux enseignants, en demandant aux parents, en demandant aux équipes et aux partenaires, en particulier les collectivités locales, mais aussi aux associations. Et à la fois par des rencontres en face-à-face et par l'utilisation d'un site, on est arrivé à 360 propositions de changement que j'ai résumé sous le terme « Académie apprenante ». Alors à l'époque, il faut vous dire que c'était un petit clin d'œil à l'équipe de François Taddeï, Catherine Becchetti, Bizeau et Guillaume Houzel, puisque dans le premier rapport qu'ils avaient écrit sur les territoires apprenants et sur l'innovation, il y avait tout était apprenant, sauf les académies. Et donc je leur ai dit, mais moi je glisse un nouveau terme, c'est l'Académie apprenante. Et François Taddeï nous a fait le bonheur de venir faire le kick-off de l'Académie apprenante lors de la journée de l'innovation de l'Académie de Dijon il y a 2 ans. Il est revenu cette année, j'étais même pas au courant. Alors ça c'est un signal de ce que c'est qu'une Académie apprenante. Anne Dauverne, qui est la Cardi, qui est présente ici, l'a invité sans m'en parler. Il a accepté sans m'en parler. Il m'a dit après, ah au fait, je viens. Ouais, non, quoi, j'étais pas là pendant qu'il a parlé, parce que moi j'étais là le matin, pas l'après-midi. J'ai réussi à déjeuner avec lui. Mais il est venu et il m'a appelé après, en sortant du train, en me disant, écoute, il se passe vraiment des choses. J'ai vu la différence en un an. Oui, il y a des choses qui bougent. Donc il faut croire qu'il y a quelque chose qui fonctionne dans cette Académie apprenante. Alors voilà comment je la définis. J'ai parlé de dépasser les frontières, c'est extrêmement important. Si on veut se mettre dans une position d'être en constant progrès, en constante innovation et en mouvement, c'est extrêmement important de casser les cadres rigides des frontières entre les catégories professionnelles, entre les disciplines, entre premier degré et second degré, entre le second degré et l'enseignement supérieur. Il faut arriver à mettre en marche un système dans lequel les gens se parlent, quelle que soit leur position, et oublient les frontières habituelles des catégories pour pouvoir être dans une créativité, dans un échange, dans un partage, au service des élèves. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, c'est pour ça que je l'ai mis en premier. Ensuite, il faut que cette académie puisse encourager réellement des comportements d'innovation. Et encore une fois, d'un point de vue institutionnel, ce qui n'est pas la même chose que d'accepter simplement l'innovation qui est partout et qui se développe heureusement. Il faut aussi qu'elle favorise l'intelligence collective en mettant en place des outils pour que ce soit possible. Parce que c'est très simple de dire « allez-y ». Mais ça ne se fait pas très simplement parce que les gens ne sont pas au même endroit, parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes réunions. Et donc, il faut penser, d'un point de vue organisationnel, comment outiller la possibilité de l'intelligence collective et la possibilité également de la documentation de ce qui se passe. La colonne vertébrale de l'Académie apprenante, c'est un appui sur la recherche. Et l'appui sur la recherche, ce n'est pas si simple que ça. On a eu un exemple, je ne sais pas si vous avez vu le tweet que j'ai fait sur l'adossement à la recherche suite au comité académique de Canopé de lundi matin, parce qu'on avait la chance d'avoir des sketch-noteurs. Le travail avec la recherche était un travail extrêmement difficile à organiser. On a eu un témoignage lundi matin sur un projet IFRAN du chef de projet qui racontait à quel point, pour que ça fonctionne, il a dû comprendre comment fonctionne le monde de la recherche, comprendre les logiques des doctorants, des post-doctorants, de ceux qui trouvent un poste au milieu, puis ça met tout le projet en retard de 3 mois parce qu'ils sont partis. Enfin, des choses qui sont de l'ordre d'être dans des mondes différents qu'il faut comprendre et qu'il faut aligner. Et c'est aussi des choses qu'on apprend. Alors ça, c'est un aspect organisationnel. Il y a un autre aspect qui est de pouvoir créer le lien entre recherche et pratique. C'est pour ça qu'on a mis en place une fabrique des ateliers très rapidement, mais qu'on l'a mise en place d'une façon organisationnelle, c'est-à-dire pas uniquement sur une thématique donnée, mais de façon à travailler avec le Conseil scientifique de l'éducation nationale sur comment est-ce qu'on fait ce lien avec les cadres de l'Académie pour que ce soit une réalité et qu'on arrive à le mettre en œuvre. Et puis, le dernier élément de l'Académie apprenante qui me semble essentiel, c'est de demander aux acteurs, non seulement quand ils innovent, de s'appuyer sur la rigueur de la recherche, Donc, de se donner des objectifs, de se donner des indicateurs, de mesurer l'impact voulu et non voulu de leurs innovations, mais aussi de documenter tout ça pour que ça serve aux autres. Et finalement, une organisation apprenante par rapport à un individu apprenant, c'est ça la définition, c'est que ce que l'un a appris de ses essais, de ses réussites et de ses erreurs, et c'est pas le moindre défi que de reconnaître les erreurs et d'en apprendre des choses, il faut que ce soit mis à disposition des autres, et ça s'outille aussi. Et ça se motive, parce qu'une fois qu'on a fait un projet, il faut encore faire un effort supplémentaire pour le documenter. Donc ça s'organise, il faut donner des facilitateurs qui peuvent aider à expliquer ce qu'on a fait, et il faut encourager en permanence le système à faire cette documentation, sinon on continue à avoir des innovateurs qui reprennent les choses, chacun de leur côté. Ça c'est le signal gentil qu'il faut avancer. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des enjeux qui sont extrêmement forts. Alors moi, je place les enjeux au niveau des enseignants et des élèves. En ce qui concerne les enseignants, il y a une question de motivation qui est très claire. On a parfois, et on est ici dans la Journée nationale de l'innovation, donc je pense qu'il y a pas mal d'acteurs qui le vivent, on a parfois des enseignants qui se cachent pour innover. Parce que ce n'est pas toujours bien vu par la hiérarchie directe, les collègues dans l'établissement, par l'inspecteur. Et donc, pour être heureux, ils vont cacher. Il faut au contraire motiver les enseignants à innover de façon rigoureuse, à partager et rentrer dans une dynamique collective de partage, de confiance, qui est essentielle pour pouvoir améliorer en permanence les pratiques des enseignants, de façon à ce que les élèves en bénéficient. Et du côté des élèves, il me semble que, je l'ai dit aux assises de la formation il y a 2 semaines, il me semble que ce qui est très important, c'est de montrer aux élèves que la façon dont on travaille au 21e siècle, ça commence déjà à l'école. Et que ce qu'on va attendre d'eux, c'est de travailler de cette façon-là. Et donc, les collectifs apprenants, dans un monde d'intellectuels comme est le monde enseignant, ça doit être une réalité dans laquelle baignent les élèves de façon à ce que ça devienne complètement naturel pour eux et qu'ils développent les compétences du 21e siècle dont ils auront besoin une fois qu'ils seront adultes et même dès qu'ils seront jeunes, parce qu'il faut aussi les encourager à tous les engagements et toutes les initiatives possibles le plus tôt possible. Alors comment on fait ? C'est bien la question. Alors il faut créer une envie, donc je vous ai parlé du projet académique, mais il faut surtout tenir tout le temps contre les injonctions paradoxales, si on veut résumer les choses. Il faut à la fois donner du sens. Alors là, j'ai un propos managérial quand je vous dis ça. Vous savez d'où je viens, de ce monde affreux du management, des écoles de commerce, où c'est tout l'opposé de l'éducation. Pas du tout. C'est vraiment mettre le management au service du projet éducatif. Et donc, il faut en permanence donner du sens et faire système dans le sens où il faut qu'il y ait un alignement parfait entre la stratégie qu'on se donne et l'organisation qu'on met en place. Si on ne fait pas ça, on est en permanence dans des contradictions qui empêchent les gens d'avancer, qui cassent le sens et qui font qu'on arrive dans des paroles qui ne sont plus que des discours et qui sont en contradiction d'autant plus forte avec la réalité qu'elles disent des choses dont les gens peuvent rêver. Donc ça veut dire qu'on a changé l'organisation de l'académie, on a transformé les bassins en réseau de façon à pouvoir prendre en compte le parcours éducatif depuis l'entrée en maternelle jusqu'à l'entrée dans la vie professionnelle au-delà des études. On a créé des outils pour être capable de s'adapter et avec quelque chose qui est très délicat, qui est la question de l'agilité. C'est-à-dire que si on veut donner du sens, il faut avoir l'air d'être sûr de soi et dire « allez, on va là, on va y aller ». Mais personne n'y a jamais été. Donc moi, je ne suis pas sûre de moi et je ne sais rien toute seule. Et donc, j'apprends au fur et à mesure et j'apprends et on invente en collectif. Et ça, c'est difficile parce qu'il faut à la fois tenir la maison et en même temps reconnaître que des fois, on ne va pas forcément dans le bon sens et il faut aller en arrière. Donc on a, de temps en temps, sur l'organisation, on se rend compte qu'on n'a pas forcément fait les bons choix, on va changer les choses. Un des éléments qui est extrêmement important, c'est le pilotage, c'est-à-dire le contrôle de gestion. Là aussi, je parle de gestion. Qu'est-ce que c'est que le contrôle de gestion ? Ce n'est pas du tout quelque chose qui est là pour empêcher, pour contrôler, c'est quelque chose qui est là pour permettre de savoir où on en est, pour savoir si on va dans le bon sens et pour pouvoir rectifier le tir si on se rend compte qu'on n'atteint pas les objectifs qu'on s'était donnés. Donc on a eu la semaine dernière, je crois, une formation aux indicateurs de pilotage, de façon à ce que tous les acteurs qui sont engagés dans le projet puissent se doter d'indicateurs qui font sens pour eux. Et on est en train de modifier notre pilotage, où on va avoir des tableaux de bord emboîtés, où on aura des indicateurs qui font sens au niveau des classes, au niveau des établissements, au niveau des réseaux, au niveau des départements, au niveau de l'académie. Et j'ai proposé à Jean-Marc Huard d'avoir un dialogue avec la DGESCO pour que les indicateurs puissent être partagés aussi, et qu'on n'ait pas forcément à faire deux fois de rentrer des données. Du coup, ça implique aussi d'emboîter les calendriers de projets d'établissement, de projets de réseau, de projets de département avec le projet académique, de façon à ce que les gens soient tous alignés dans le même sens et puissent trouver leur façon d'être dans le système.
Merci Frédéric. Donc en fait, avec Pascal, dans le séminaire, on a voulu faire un petit point justement sur ce qu'on avait vu sur les différentes échelles territoriales et les niveaux d'organisation qu'on a constatés. Donc on a vu effectivement de nombreuses échelles qui vont de l'établissement, les circonscriptions, dont parlait Pascal, à l'académie, voire la société apprenante, comme François Taddeï était venu dans notre deuxième session du séminaire, même les classes apprenantes. Donc on a vu qu'il y avait beaucoup de niveaux d'organisation qui coexistent, en fait, des niveaux d'organisation formels qui sont internes, propres à l'établissement, à l'académie, qui sont issus de statuts, de cadres réglementaires dont tu viens de parler. Mais il y a aussi beaucoup de niveaux d'organisation informels, et ça c'est beaucoup plus difficile à traiter, donc des niveaux d'organisation qui sont liés à la culture professionnelle, qui sont liés même aux établissements, aux propres territoires, propres individus. Donc voilà, ce sont, en termes de pilotage, ça crée des difficultés et des frictions. Donc il y a des frictions entre culture professionnelle, au niveau intercatégoriel. Donc il y a des questions, et la question des injonctions paradoxales, puisque ces niveaux d'organisation ont des priorisations, des organisations réglementaires différentes. Donc cette question des cadres et des régulations, donc réglementaires, stratégiques, organisationnelles, justement, c'est le cœur du propos, et donc qui pose la question du pilotage, comme tu l'as très bien dit, la question de l'autonomie, et aussi les freins et les limites à l'innovation, donc parfois même liés à l'autocensure, comme tu le disais, de professeurs, ou même de personnel qui se cache. Donc on a vu une place centrale, hein, donc c'est pas ici qu'on va vraiment innover dans ces termes, donc sur la place de la recherche. Place de la recherche, donc avec la notion d'accès à la recherche qui est essentielle, donc l'accès aux ressources, les différents niveaux, les plateformes, la place du numérique dans cet accès à la recherche, la documentation. Il y a aussi la recherche comme objectivation de structure sous-jacente et niveau d'organisation sous-jacent. Par exemple, on peut se souvenir de l'étude du CNESCO sur la qualité de vie à l'école, l'importance, et on voyait par exemple, on a vu émerger un impact de la qualité de vie à l'école sur les résultats scolaires. Donc ça permet d'objectiver, de donner de nouveaux axes de pratique, les cadres de la boussole des valeurs dont tu as parlé tout à l'heure, notamment est issu de ce cadre. Donc on a aussi la recherche comme amélioration des pratiques, mais ça on va pas développer, c'est assez connu. L'expérimentation qui permet de tester de nouvelles pistes et tester des porosités entre justement les cadres et la pensée en continuum qu'on a vu arriver, donc sur les continuums des acteurs, les continuums éducatifs. Et donc on a vu émerger une notion de degré de liberté, là, qui était mentionnée par François Taddeï, la question de la semi-autonomie que tu as largement développée dans notre séminaire, et la question du pilotage et de l'organisation qui est bien évidemment centrale. Mais on a vu surtout émerger à chaque fois des freins vraiment réels, c'est-à-dire que comment fédérer les acteurs. Comment fédérer les acteurs et notamment comment embarquer le défi des grands nombres dans une académie, comment embarquer tous les professeurs, les élèves, les parents, c'est-à-dire comment aussi communiquer avec eux, tu l'avais largement développé, ça s'est précisé dans d'autres sessions de nos séminaires. Comment initier surtout aussi une dynamique collective? Donc François Taddeï nous parlait de la société apprenante, mais comment elle se construit, comment on initie cette démarche? Et la démarche de l'Académie de Dijon nécessiterait trois bonnes heures, c'est ce que tu avais fait dans notre séminaire, pour n'aborder qu'une partie de la démarche. Donc voilà, et comment aussi initier les transformations individuelles? Ça c'est essentiel, et donc là on voit bien toucher la question du développement professionnel qui est une notion centrale. Alors, donc, j'ai proposé dans la dernière session de notre séminaire et que je vais prolonger lors de la prochaine, le 18 mai, c'est ça, Pascal? Donc, un nouveau paradigme au travers de mes recherches des des 12 derniers mois, donc un nouveau paradigme pour l'école du 21e siècle, le learning by being, qui permet de penser, donc on a un projet là qui est extrêmement construit, développé, précisé là, dans l'Académie de Dijon, mais quand on veut initier une idée d'école apprenante, comment on peut s'y prendre, donc l'initier dans un nouveau paradigme éducatif avec une société qui est en pleine mutation, en perpétuelle évolution avec une accélération constante du numérique et des nouvelles problématiques éducatives qui sont maintenant dématérialisées, polymorphes, ubiquitaires, implique vraiment un nouveau paradigme éducatif pour dépasser tout ce qui a fait le 20e siècle. Donc le learning by being, donc apprendre en étant. Donc j'en donne une définition avec deux niveaux qui coexistent, donc un niveau individuel, donc by being, c'est apprendre en étant à l'échelle individuelle, donc en étant pris dans le continuum des composantes de l'individu. Donc on voit notamment apparaître une notion de la place du corps, la place du cerveau, la place des continuums éducatifs, la place du professionnel et du personnel chez les personnels adultes. Mais aussi un niveau, donc souvent on prend un focus sur l'individuel, mais il y a un niveau qui coexiste de manière permanente, c'est le niveau interindividuel. Donc qu'est-ce que c'est apprendre en étant à l'échelle interindividuelle? Donc c'est apprendre, s'incarner un rôle effectif et bénéficier d'une reconnaissance à ce titre au sein d'un communauté, réseau, organisation, écosystème, auquel chacun se sait appartenir et chacun vit et agit. Donc il y a donc tout un tas de choses à développer, mais je dirais que ça a été conçu comme un cadre, un espace conceptuel de dialogue intercatégoriel, puisqu'on voit bien que c'est dans l'intercatégoriel qu'il y a beaucoup de complications, donc qui est trans et interdisciplinaire. Et c'est un cadre interprétatif, dans le sens où on peut analyser avec ce même paradigme la coéducation, les alliances éducatives, où on voit bien les continuums éducatifs apparaître. La question des tiers-lieux, de l'architecture scolaire, où là, justement, on a une nouvelle façon d'être, donc dans différentes, la place du corps, la place du mouvement, aussi un continuum, les tiers-lieux, qui sont des continuums pour développer de nouvelles compétences, qui ne sont pas nécessairement scolaires, mais aussi de multiplicité d'acteurs, des acteurs associatifs, les collectivités, donc même, des acteurs de la recherche. Donc il y a, par exemple, les sciences cognitives, on peut interpréter par ce prisme les sciences cognitives qui sont finalement s'attachent au cerveau, qui est une composante de l'individu. Mais aussi la cognition sociale qui a été développée lors du dernier colloque de l'UNESCO, donc où là on a vraiment une analyse des processus interindividuels. Donc c'est une grille d'analyse de l'existant. Alors ce serait un peu long à développer, mais donc on peut faire varier les niveaux d'analyse individuelle, interindividuelle, et penser les continuums. Je vais prendre deux exemples marquants. Donc le rapprochement développement professionnel, développement personnel. Donc là, on voit bien qu'on est dans une réflexion qui est extrêmement intéressante. Mais par exemple, quand on prend l'établissement, ça peut être au niveau interindividuel un écosystème, donc avec des classes, des élèves, etc. Mais ça peut être aussi considéré comme une unité éducative qui fait partie d'un territoire, d'une circonscription, comme va le développer Pascal, ou d'une académie. Et on voit bien que là, même aussi au niveau national, avec des nouvelles priorités, etc. Donc en fait, en faisant varier ces niveaux d'analyse, on a une analyse très fine de l'existant. Et donc, on a justement un cadre systémique opérationnel qui permet de penser les actions et les interactions de chaque acteur et entre les acteurs, de construire de nouvelles synergies. Donc on peut penser le design des espaces, le design des organisations, donc créer des environnements capacitants, favorisant l'intelligence collective, les stratégies multi-acteurs. Et globalement, c'est de passer de modèles cumulatifs, où on traite chaque problématique de manière séparée, à une approche systémique et à un modèle agrégatif. Et donc, c'est ce qui est très bien développé. Je te repasse la parole, Frédéric.
Alors, petit détour théorique avant d'expliquer le cadre commun. Moi, plutôt que de parler uniquement de systémique, je parle de sociotechnique. Ma référence théorique, en fait, tu parlais de semi-autonomie, ça fait bizarre d'entendre semi-autonomie. On parle de groupe semi-autonome, et c'est une référence à ce qu'on appelle l'école sociotechnique, c'est-à-dire une école organisationnelle qui a fait le lien entre la psychanalyse et la systémique. Et c'est l'école qui a présidé, c'est une école britannique au départ, mais c'est elle qui a présidé à toute l'organisation d'équipes semi-autonomes en Europe du Nord, dans l'industrie. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, l'idée centrale de la sociotechnique, c'est de se dire qu'il faut mettre en place des organisations qui correspondent au système technique qu'on a en face de soi, et dans lesquels l'efficacité vient de décisions autonomes collectives. Et ce que ça a de semi-autonome, c'est que ce sont des collectifs autonomes, ce qui ne veut pas dire des collectifs qui s'autogèrent, mais qui veut dire des collectifs qui sont capables de s'intégrer dans un système plus vaste, avec des modes de communication qui leur permettent de se coordonner. Et le modèle qu'il y a derrière l'Académie apprenante, c'est ce modèle socio-technique. Et pour que chaque personne puisse se repérer et prendre des décisions qui ne vont pas être contradictoires avec celles des autres, il faut avoir un changement de culture qui s'appuie sur des valeurs partagées. Et ce qui est ressorti très fortement dans la consultation du projet académique de Dijon, c'était un ensemble de valeurs qui méritaient d'être exprimées. Donc on a travaillé sur l'expression de ces valeurs, et elles s'expriment sous la forme d'une boussole qui permet à chaque acteur du système de se poser la question de savoir si la décision qu'il est en train de prendre pour un élève, pour un groupe d'élèves, pour un établissement, est une décision qui va dans le sens global du système ou pas. Donc vous avez ici ce à quoi on a abouti. On part d'un respect absolu de l'élève et de l'individu, avec l'idée que chaque élève peut progresser, chaque personne peut progresser et peut changer. Et on emmène les personnes vers les excellences au pluriel, c'est-à-dire que on sort d'un système élitiste dans lequel il y a juste une façon de faire. Vous voyez qu'on est très proche de l'idée de la réforme du baccalauréat, et on va vers des chemins d'excellence pour chacun. Donc ça, c'est le sens du système. Et puis vous avez autour de cette boussole des extenseurs qui sont des couples de notions qu'il faut tenir en même temps. Donc on a d'un côté bienveillance et exigence. Donc plus on est exigeant, plus il faut être bienveillant. Plus on est bienveillant, plus il faut être exigeant. Donc on abandonne l'idée de placer un curseur entre deux notions. On tire sur les deux, c'est pour ça que ça s'appelle les extenseurs, on tire sur les deux en même temps. De la même façon, plus on fait de la différenciation, plus il faut penser à l'égalité. Parce qu'il ne faut pas se mettre dans des situations dans lesquelles la différenciation se fait au détriment d'autres élèves. Et enfin, plus on donne d'autonomie, à la fois à l'enfant mais aussi aux structures, plus il faut être capable d'accompagner pour que cette autonomie se fasse dans la confiance et qu'elle puisse être productive. Donc, cette boussole des valeurs, on l'a matérialisée sous la forme d'un objet, je l'ai accrochée à mon sac là-bas, je la porte tout le temps sur moi, et ce que j'ai dit à l'ensemble des acteurs à qui j'ai été présenter le projet, c'est prenez-la dans la main, et quand vous avez un doute, tenez-la, pour savoir si vous êtes vers le bon cap. Et ça, c'est un gris-gris, mais c'est un gris-gris qui comporte beaucoup d'idées et beaucoup d'histoires. Voilà. Alors, ça a l'air d'être un gadget comme ça, mais on a vraiment cherché un objet qu'on pouvait produire de façon assez simple et pas chère pour que tout le monde puisse l'avoir. Et c'est notre boussole des valeurs, et ça nous sert beaucoup, et ça me sert aussi à moi dans l'ensemble des décisions. Dernier élément organisationnel, c'est par rapport à ce défi à la fois des grands nombres et des grandes distances. Parce que pour traverser l'Académie de Dijon, il faut faire 4 heures de voiture. Et donc, ce n'est pas facile de réunir les gens en permanence. Donc, il faut avoir un équilibre entre des moments où on se voit, où on peut discuter, et puis des moments où on travaille à distance. Donc, on a veillé à cet équilibre. Et en ce qui concerne le présentiel, on a créé des groupes de travail académiques où chacun choisissait un groupe qui l'intéressait sur une thématique, et on a rendu possible 2 déplacements par an pour que les gens puissent se voir. Donc en gros, ils se sont vus au début surtout pour pouvoir vraiment mettre les choses en place, et après ils ont la liberté de choisir à quel moment ils veulent se retrouver. Mais on leur a aussi mis en place tous les outils techniques de travail à distance, avec un système particulier de visioconférence pour qu'ils puissent le faire depuis leur poste, avec une plateforme de travail privée et des outils de communication publique une fois qu'ils ont fini leurs échanges. Donc c'est vraiment toujours les deux en même temps, avec des moments de grand-messe. Alors on a fait la fête de l'apprendre pour rendre hommage à François et à son envie de fêter comme ça les apprentissages. On recommencera l'année prochaine. On va regrouper tous les acteurs des groupes de travail académiques pour qu'ils puissent se retrouver à un moment donné. On fera probablement lors de la prochaine journée d'innovation au mois de novembre dans l'Académie. Je sais que c'est une invitation, Isabelle, il faudra être là. Et puis, on a créé des lieux avec l'idée d'avoir au moins un lieu par département dans lequel on peut se retrouver sur l'innovation. Donc, on a un partenariat très fort avec Canopée Et je vois Laurent Teinturier qui est dans la salle parce qu'il est toujours fidèle. Les ateliers Canopé font partie de notre réseau. On est en train de construire à Besançon la maison universitaire de l'éducation qui sera le foyer central de cette mise en réseau. On a travaillé pendant plus d'un an avec Jérôme Saleté qui est là au premier rang et les deux recteurs ensemble sur la création d'écoles du socle qui sont d'autres foyers d'innovation. Et puis, comme ça fait un certain nombre d'années, je ne le compte plus, que je suis au conseil scientifique du Lab School Network, j'ai labellisé des écoles qui étaient très innovantes en écoles laboratoires en leur demandant d'irradier autour d'elles et d'accueillir les établissements. Pour l'instant, j'ai un collège et un lycée, donc les établissements du premier degré et les collèges en ce qui concerne le lycée et vice-versa pour le collège. Puis on va en ouvrir aussi dans le premier degré. Et en leur demandant d'avoir une relation particulière avec l'ESP sur la formation initiale et un rapport particulier sur la formation continue. Notre première lab school, qui est le lycée Paris à Montceau-les-Mines, a un laboratoire de mathématiques qui est inclus dans l'école laboratoire. Et on a comme ça toute une série d'actions locales. Avec, dans un premier temps, on veut une école du socle et une école laboratoire par département. Dans l'idéal, il faudrait qu'il y en ait une à moins de 60 km de chaque enseignant, de façon à ce qu'il y ait un lieu où on puisse venir discuter, partager, tester des choses, affiner en parlant avec des vrais gens. Mais sur la partie à distance, on a par exemple monté un forum apprenant dans lequel les gens discutent et spontanément les acteurs sont venus nous dire « Tiens, est-ce qu'on pourrait se géolocaliser pour pouvoir aller voir des classes de collègues qui sont en train de parler d'un truc intéressant, savoir s'ils ne sont pas trop loin, faire des échanges, etc. » Donc, à partir du moment où le mouvement est lancé, ça bouillonne et encore une fois, il se passe plein de choses sans que je sois au courant. Mais c'est ça l'école de la confiance. Les acteurs ont des initiatives et en général, c'est quand même assez formidable et ça permet de libérer pas mal d'énergie dans l'académie en ayant une attention particulière qui est d'avoir un site, il appelle ça vitrine, mais l'objectif, c'est que chaque acteur, quel qu'il soit, puisse regarder où on en est sur une question donnée. Donc on a mis en ligne le projet académique. Derrière, on met en ligne une feuille de route annuelle dans laquelle on dit voilà sur quoi on se concentre. Et que vous soyez un enseignant qui a envie de travailler, par exemple, sur la relaxation, puisqu'on a un axe du projet académique sur le bien-être, vous pouvez aller voir sur le groupe de travail bien-être qu'est-ce qui se fait, à qui je peux parler. Quels sont les grands résultats de recherche sur cette question-là? Donc, le groupe de travail met à disposition les papiers principaux sur la question, les synthèses principales, quelques films aussi, renvoie vers des sites, de façon à se faire gagner du temps à ceux qui veulent innover sur une question particulière ou mettre en place un dispositif. Et c'est vraiment ça le sens de quelque chose qui est apprenant, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul et on c'est cumulatif. Au fur et à mesure, on vient nourrir, on vient remercier le système qui nous a nourris en contribuant pour les autres. Avec un petit gimmick sur le forum apprenant, qui est que on met des j'ai appris, plutôt que de mettre des I like comme sur Facebook, de façon aussi à avoir un système de reconnaissance pour ceux qui y passent un peu plus de temps que les autres et qui répondent aux autres et qui donnent des informations. Donc voilà la mise en cohérence d'un système qui court très vite. Alors, la question qui peut se poser dans ce contexte, c'est quand on descend les niveaux d'échelle, là, je vous parle d'une organisation à l'échelle académique, l'établissement lui-même, qu'est-ce que c'est? La circonscription, qu'est-ce que c'est? Donc, je vous le dis en deux mots, pour moi, un établissement apprenant, c'est une équipe qui travaille en intelligence collective et qui, à l'échelle de l'établissement, fait ce que j'ai dit au niveau de l'académie. Il y a vraiment la question de l'ouverture, du partage, du transfrontière, de la documentation de ce qu'on fait et du lien avec la recherche. Et je passe tout de suite la parole à Pascal parce qu'on y reviendra tout à l'heure après les circos.
Merci Frédéric. Merci Frédéric et merci Miguel. Bonjour à tous. Je vais vous emmener un petit peu dans les cuisines de la manière dont ça peut se passer en pratique, parce que tout ce que dit Frédéric, ça peut sembler un petit peu intimidant aussi, de se dire oh, là, comment on fait tout ça, par quel bout on commence, comment on y va. Et donc moi j'ai vécu un petit peu de l'intérieur, la façon dont on peut tâtonner, dont on peut savoir comment on y va ou pas savoir où on va. Et je voudrais d'abord souligner le rôle déterminant des CARDI, il y en a dans la salle, et je salue Irène, puisque le projet a été construit en grande partie avec la CARDI. Je veux faire aussi une petite mise en garde avant, soyez prudents, c'est extrêmement contagieux, cette question des organisations apprenantes, des communautés apprenantes, puisque après Frédéric et l'Académie de Dijon, c'est l'Académie de Créteil qui envisage de créer une home school publique au niveau du collège d'Aubervilliers, qui n'est pas encore sorti de terre, mais un projet qui commence avec la CARDI dans 15 jours, par une réunion d'un premier petit comité de pilotage pour créer aussi au niveau d'Aubervilliers, en lien avec le futur grand campus Condorcet, un collège apprenant Lab School. Et donc l'idée, c'est effectivement qu'il y en ait progressivement dans toutes les académies. Alors, la circonscription apprenante, la personne clé, ça a été l'IEN et la CARDI, qui se sont dit à un moment qu'il fallait répondre à une difficulté que je pense qu'on peut rencontrer à peu près partout, qui était la grande hétérogénéité du territoire de la circonscription 17A, entre les Batignolles et puis la place de Clichy, avec des personnes de milieu assez aisés et des personnes de milieu assez défavorisées. Donc l'idée était de favoriser les initiatives pour mettre en place un cadre ouvert et apprenant qui concerne à la fois les enseignants, les élèves et les parents. Donc on a commencé par les enseignants. Le premier enseignement, ça a été, on parle beaucoup de pédagogie explicite, ça a été de quelle manière on peut communiquer avec les enseignants. Et la grande discussion qu'on a eue, moi j'ai travaillé avec les directeurs d'école, les conseillers pédagogiques et puis évidemment la CARDI, c'était de se dire comment on embarque tout le monde, parce qu'il s'agit bien d'un changement de culture professionnelle, donc qui est évoqué par François Tadi, par Cédric Villani dans ses rapports. Il faut que la culture professionnelle dans son ensemble puisse changer. Ça peut générer aussi des peurs, ça peut générer des freins. Et donc c'est comment on embarque tout le monde. Et le grand défi que moi j'ai découvert, c'est comment on fait en sorte que des personnes qui pour l'instant ne se sentent pas encore prêtes à innover, à avancer, à transformer leur pratique, comment on fait pour qu'elles ne se sentent pas ostracisées et que ça ne génère pas l'effet inverse de l'effet escompté, à savoir des résistances et des crispations. Et donc pour faire ça, la première question qu'on s'est posée, c'est quels outils ? Donc Frédéric parlait des indicateurs. C'est là où moi, en tant que chercheuse, je pouvais aussi contribuer à intervenir. Et on a commencé cette première année par la construction d'outils. L'inspectrice de circonscription, Isabelle Souron, a mis en place un questionnaire sur les pratiques. Parce que finalement, c'est quoi être un établissement apprenant, une circonscription apprenante ? Qu'est-ce qu'on fait en pratique ? Est-ce qu'on met en place des conseils d'élèves pour que la gouvernance soit plus démocratique ? Est-ce qu'on fait de l'arrivée échelonnée ? Est-ce qu'on fait l'implication des parents dans la classe, etc. Donc on a fait une petite enquête à laquelle 107 enseignants ont répondu, ce qui était assez important parce qu'il y a 22 écoles. Je ne sais plus combien il y a d'enseignants dans la circonscription, mais je crois qu'on a eu plus de 2/3 de réponses. Donc c'était vraiment important. Et on a développé un autre outil aussi qui était de prendre un outil international, parce que être apprenant, c'est pas seulement être en France ou sur son petit territoire, c'est vraiment pouvoir aussi se confronter et échanger avec les pratiques d'autres pays. Et il existe déjà des questionnaires destinés à évaluer la dimension apprenante d'un établissement qu'on a traduit et pour lequel on pourra mettre en place une enquête au moins à l'échelle de l'Académie de Dijon, mais pourquoi pas à l'échelle nationale si c'est possible. Donc l'idée, c'était des définitions. Et là, on a eu plein d'enseignants qui n'ont pas répondu parce que je pense qu'ils n'avaient pas été suffisamment informés. Donc là aussi, je pense que Frédéric, par ta consultation, tu as pu communiquer sur la dimension apprenante. Au niveau de la circonscription, c'est ce à quoi on s'attache. Et on partage aussi nos erreurs ou les choses sur lesquelles on a pu tâtonner pour que d'autres circonscriptions, puisqu'il y en a 4 ou 5 autres déjà dans Paris qui ont déclaré leur intention de devenir circonscription apprenante. Il y a Béthune 3 aussi, je ne sais pas si Benoît Baquet est dans la salle, qui a envie d'avancer dans ce sens-là. Ce à quoi je voulais aboutir, et après je resterai là, oui, c'est la prochaine. Les résultats de l'enquête, je n'aborderai qu'une question. Ce qui m'a semblé plus frappant, c'est comment on sent quand on essaye de devenir circonscription apprenante. Presque tous les enseignants, un grand nombre en tout cas, ont déclaré qu'ils ont été déstabilisés. Donc c'est pas facile. Quand Frédéric le raconte, on a l'impression que tout se fait dans la joie et la bonne humeur. Mais non, ça peut être déstabilisant. Et les résultats, assez rapidement aussi, c'est que l'enseignant se sent mieux, d'abord. Donc vous voyez qu'ils sont plus de 70% à avoir déclaré qu'ils se sentaient mieux très souvent ou souvent. Et la suivante, s'il te plaît Miguel, merci. Et les effets au niveau des élèves, c'est un meilleur engagement des élèves, une amélioration du climat scolaire. Donc finalement, ça vaut le coup de se sentir déstabilisé pendant quelques temps pour pouvoir après se sentir mieux et pour le bénéfice des élèves, évidemment. Et donc je termine sur simplement une définition qui n'est pas la mienne, qui est celle d'un recteur d'académie, qui est celle d'Alain Bouvier, parce que c'est important aussi qu'on puisse se retrouver sur des définitions communes. Alors quand on la lit comme ça, ça peut sembler un petit peu touffu, mais finalement un établissement apprenant, ou une circonscription, un territoire, une société, c'est un système d'action d'abord, d'action et de conduite de l'action, qui renvoie à la boussole qu'on avait tout à l'heure, et à la dimension collective des apprentissages, le fait que ce soit itératif, qu'on apprenne en permanence, qu'on régule, qu'on apprenne de nos expériences, qu'on capitalise, et ça, la dimension de partage est extrêmement importante. Et au niveau de la circonscription, il y a aussi un site internet pour partager les expériences des uns et des autres. Et ce qui me semble le plus important, c'est qu'il s'agisse de transformer volontairement ces pratiques. Et donc je pensais que ce qu'on pouvait dire pour terminer mais après je redonne la parole à Frédéric, et pour susciter les échanges, c'est que pour les inspecteurs qui seraient dans la salle, je pense qu'ici, un petit biais, ceux qui sont dans la salle sont déjà très très ouverts, mais c'est vraiment laisser la porte ouverte aux initiatives de vos enseignants, parce que la dernière remarque que j'ai eue d'Isabelle Souron il y a quelques jours quand on s'est vu avec la Cardi pour la suite, c'est, et en plus, les enseignants, quand ils proposent des choses, on a besoin de rien leur dire parce qu'ils sont toujours dans le cadre, ils n'ont jamais des idées complètement farfelues, donc les choses s'autorégulent, et donc cette semi-autonomie, je pense qu'elle est déjà en place, et on peut vraiment laisser la porte ouverte aux enseignants.
Pas la parole, je vous la donne. Isabelle, on a combien de temps d'échange?
Oui, on a
jusqu'à demain matin. Voilà.
Oui, on a tout le temps qu'on veut parce que nous avons appris ce matin que Patrick Savidan en fait est souffrant et ne pourra pas nous rejoindre comme il devait prendre la prochaine. Ah ben je vous ai promis une journée riche en rebondissements imprévus. Voilà, vous êtes servis. Donc nous avons effectivement tout le temps, alors peut-être pas jusqu'à demain matin parce que la Gaîté Lyrique a déjà passé beaucoup de temps la nuit dernière à mettre sa journée au point, donc je pense qu'ils auront à cœur de rentrer chez eux. Alors vos questions, vos remarques sont les bienvenues.
Bonjour, merci beaucoup pour ces échanges tout à fait intéressants. Avec Ardèche, je suis hyper à Rouen, et j'ai aussi travaillé avec Miguel au CNIRE. Tu faisais une remarque sur la dimension informelle dans les niveaux territoriaux. Moi, je crois que l'informel, c'est une vraie opportunité, en fait. Et tout l'enjeu, je crois, c'est de passer, d'arriver à formaliser quelque part de l'informel, qui est l'enjeu de l'innovation, sans créer des usines à gaz, en fait. C'est une chose qui est très, très, très forte. Parce qu'on sait très bien que l'innovation, c'est fragile, et que si on crée des dispositifs trop lourds, finalement, les innovateurs tendent à s'échapper pour garder leur liberté, leur autonomie. Mais je crois que l'informel, c'est vraiment une ressource extrêmement intéressante. Soit dit en passant...